Bonsoir tout le monde. Je commencerai à me demander donc de vous faire une catéchèse sur l'Eucharistie en termes d'approfondir le mystère de notre foi. Alors, mais c'est toujours bon de savoir à qui on parle pour pouvoir parler. Alors, je vous poserai ainsi cette question en un mot. L'Eucharistie, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que l'Eucharistie? En un mot, s'il y en a quelques-uns qui pouvaient l'exprimer. Le corps du Christ. Mort et résurrection du Christ. La fraction du pain. La rédemption, sa présence. Le pain de vie. La présence amoureuse de Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit action de grâce? Quelqu'un a dit action de grâce? C'est bien. Donc, vous avez déjà un certain contact avec l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie est un mystère. Dieu est mystère. L'Eucharistie aussi est un mystère. Alors, donc, je vais vous introduire, vous parler dans le mystère. C'est un peu ça l'idée d'une mystagogie. C'est une catéchèse qui nous aide à entrer dans le mystère. Et si tout va bien, à la fin, vous aurez plus de questions que vous en avez au début. Parce qu'on sera entré dans le mystère. Alors, je vais commencer avec comme fil conducteur, il va y avoir deux, trois mots, mais je vais commencer avec le mot « action de grâce ». Quand un enfant reçoit quelque chose, qu'est-ce qu'on lui apprend à dire? Merci. C'est normal. On reçoit quelque chose, on dit merci. Si on ne dit pas merci, bien, c'est comme si on prenait, comme c'est pour un dû, comme si on ne s'était pas aperçu que même que quelqu'un nous a donné quelque chose. Alors, le moins qu'on puisse faire, c'est dire merci et remercier. Merci, remercier, c'est comme remettre. Dans l'idée de remettre, il y a comme l'idée de remettre ce que j'ai reçu, dans le sens pour remercier, merci. Et ce qu'on remet, c'est une parole, c'est déjà bien. Et des fois, on peut remercier par un geste, par un cadeau, par une invitation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Mais je pense que oui, je suis certain que oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous donne quelque chose, une parole, un geste, une présence, et que vous soyez tellement touché que comme « merci », ça ne suffit pas. Il faut donner plus. Il faut donner plus. Et là, ça surgit comme de l'abondance du cœur. On a tellement reçu qu'on veut donner plus. Et dans une histoire d'amour, bien, ça veut dire qu'on veut tout donner. Alors, l'action de grâce, dans l'idée d'action de grâce, on se sert des mots qui ont leurs limites. Mais l'idée dans l'action de grâce, c'est d'avoir pris conscience que j'ai tellement reçu que de ce don surgit le désir de répondre à ce don et de remercier, pour ainsi dire, dans la surabondance, en se donnant. On a reçu l'autre et on se donne. L'action de grâce, on se donne. Ça ne suffit pas de donner une parole, ça ne suffit pas de donner un geste, ça ne suffit pas de donner un cadeau. On se donne. De ce point de vue, l'action de grâce, l'Eucharistie, ça commence avant l'institution de l'Eucharistie. De ce point de vue, l'Eucharistie, c'est un acte éternel. C'est une réalité éternelle. Parce que le Fils se reçoit éternellement du Père et le Fils est éternellement en action de grâce devant le don du Père. Il se reçoit du Père et dans un mouvement de reconnaissance envers le Père, il se donne totalement au Père. Le Père se vide totalement de lui, engendre le Fils éternellement. Le Père est toujours en train d'engendrer le Fils. À chaque instant de l'éternité, pour ainsi dire, le Père se donne et engendre le Fils. Quand le Père n'a pas engendré le Fils à un moment du temps, puis là, ça serait fini. Il aurait fini d'engendrer le Fils. Ça, c'est notre conception dans le temps. Le Père est toujours en train d'engendrer le Fils et comme j'aime à penser, ça va au ciel, la vision béatifique, ça va être plus fort que les chutes Niagara, c'est qu'on va être témoin, on va entrer dans le mouvement du Père qui engendre le Fils. On va être témoin du Père qui est la source éternelle, la source sans source, qui engendre le Fils. Il ne faut pas y passer trop longtemps, on va rester bouche bée. Mais le Père engendre le Fils et le Fils veut répondre à cet amour du Père. Et il veut y répondre en se donnant en retour. Autant il se reçoit du Père, autant le Père se donne totalement et engendre le Fils à chaque instant de l'éternité, toujours en étant se donner infiniment, totalement, gratuitement. Autant le Fils, pour répondre à cet amour, veut se donner en retour. Il veut se donner en retour, dans un mouvement d'action de grâce, pour répondre totalement à l'amour du Père en se donnant totalement. Et de cette réciprocité de don procède l'Esprit Saint, qui est comme le témoin de l'amour du Père et du Fils. Il est l'amour en personne qui procède du Père et du Fils. Cette réciprocité d'amour dans le Père et le Fils, elle est tellement grande, elle est tellement totale, elle est tellement infinie, qu'il en procède l'Esprit Saint qui est l'amour. L'amour du Père et du Fils, c'est un peu comme lorsqu'un couple se dit « notre amour ». Notre amour, il n'est pas là. Notre amour, ce n'est pas une personne. Notre amour, c'est l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Notre amour. Il y a l'amour que j'ai pour toi, il y a l'amour que tu as pour moi, et il y a notre amour. Alors l'Esprit Saint, c'est le notre amour du Père et du Fils. Donc l'action de grâce, l'Eucharistie, ça fait longtemps que c'est commencé. C'est une Eucharistie éternelle. On change de registre, on arrive sur la terre. Alors, l'être humain, depuis toujours, voit quelque part, d'une façon claire ou obscure, voit quelque part qu'il a reçu la vie. Il voit qu'il ne s'est pas donné la vie. Il voit qu'il reçoit la nourriture. Il voit qu'il reçoit l'eau. Il voit qu'il reçoit. Et avant même l'Ancien Testament, indépendamment de l'Ancien Testament, où on va parler d'un seul Dieu, avant même l'Ancien Testament, donc le religieux, il surgit de la conscience que j'ai reçue du divin. Quelle que soit la façon dont je vais nommer le divin, j'ai reçu du divin. Et comme je reçois du divin, qu'est-ce que je veux faire? Je veux remercier le divin. Je veux rendre grâce au divin. Et comment est-ce que je vais rendre grâce au divin? Bien, je vais prendre une partie de ce que je reçois et je vais l'offrir. Je vais prendre une partie de ma récolte. Je vais l'offrir au divin. Je vais prendre une partie de mon bétail. Je vais l'offrir au divin. Ça, c'est profondément ancré dans le cœur de l'être humain. Aujourd'hui, on pourrait un peu tourner en dérision. On pourrait trouver ça simple. Mais si on se met dans la conscience de l'être humain, là, plusieurs milliers d'années, dans l'univers, sur la terre, ben il voit qu'il reçoit, il voit qu'il ne s'est pas donné la vie, il voit qu'il reçoit la nourriture, et il veut remercier le divin. C'est dans sa conscience, quelle que soit la façon de définir ce divin. Quand on arrive avec l'Ancien Testament, on arrive avec les révélations qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Au début, avec Abraham, c'est que Dieu est le Dieu suprême. Mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Tu sais, mon Père est plus fort que le tien. Ça se présente un peu comme ça. Mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Oui, il y a des divinités environnantes, mais mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Il n'y a qu'un seul. Et c'est le Dieu unique. Yahvé, le Dieu unique, le Seigneur. Et ce Dieu unique, dans la progression de la révélation, par exemple, avec le livre d'Isaïe, ce qui va être affirmé, c'est non seulement le Dieu supérieur aux autres dieux, mais le Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Dieu seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mais il s'agit toujours pour le peuple d'Ancien Testament de rendre grâce à Dieu qui donne la vie, qui donne l'existence, que même ils ont une raison supplémentaire de rendre grâce parce qu'il a constitué son peuple. Le peuple de Dieu, il l'a libéré d'Égypte. Il lui a donné les commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Alors, que veut faire le peuple d'Israël? Il veut remercier Dieu, il veut rendre grâce à Dieu. Et c'est pour ça que l'offrande fait partie aussi de la vie religieuse du peuple d'Israël. une partie de la récolte, une partie du bétail, et on va offrir. Et pour offrir, en tout cas, avec l'évolution du temps, les choses se précisent. Là où on va offrir, c'est sur l'autel, et l'autel est dans le temple. Alors le temple, c'est là où il y a l'autel, et l'autel, c'est là où on offre. Donc on offre sur l'autel dans le temple. Et à un moment donné, on se retrouve avec un seul temple à Jérusalem, mais le temple, c'est là où on va offrir. Et c'est un acte qui se veut religieux. Alors Jésus arrive, et Jésus va introduire comme une révolution dans l'offrande. Une révolution. Jusque-là, disons en dehors de la foi juive, le religieux, c'est d'offrir à Dieu une partie du bétail ou de la récolte en reconnaissance pour tout ce qu'on reçoit de Dieu, la vie et la nourriture, mais sans nécessairement avoir une connotation éthique ou morale. C'est l'acte d'offrir à Dieu. Et la question éthique ou morale, il peut en avoir une, mais c'est moins directement lié à la dimension religieuse. Dans l'Ancien Testament, non seulement il s'agit de rendre grâce à Dieu, mais la dimension éthique, les commandements de Dieu, la dimension morale, la dimension des valeurs, pour être dans un certain langage moderne, mais disons la dimension des commandements de Dieu, fait partie de ce qu'on offre. Autrement dit, on offre non seulement une partie de notre bétail ou une partie de notre récolte, on offre aussi notre volonté. On offre aussi notre intelligence pour qu'elle accueille la loi de Dieu, notre volonté pour mettre en pratique. Donc, il commence déjà à avoir une intériorisation de l'offrande. Dans un monde en dehors de la Bible, dans un premier temps, l'offrande, c'est surtout d'offrir quelque chose d'extérieur. Pas d'extérieur à la vie, parce que le blé, le bétail, bien, ça fait partie de la vie, mais d'extérieur à nous. Avec l'Ancien Testament, il y a comme un commencement d'intériorisation. C'est non seulement d'offrir des éléments extérieurs, mais c'est d'offrir notre intelligence et notre volonté sous l'angle de la loi de Dieu. Et il y a de magnifiques psaumes pour louanger la loi de Dieu, pour dire notre attachement à la loi de Dieu, puis et il ne faut jamais s'en lasser, c'est magnifique, et ça nous fait intérioriser l'offrande. Avec Jésus-Christ, on va beaucoup plus loin. Avec Jésus-Christ, l'offrande, c'est le don de soi. C'est l'offrande de soi. C'est pas le don de quelque chose d'extérieur à moi-même. C'est pas le don d'une partie de moi-même. C'est le don de tout moi-même. Et c'est présent dans plusieurs textes de Nouveau Testament, qu'on pense au bon pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Mais quand il s'offre au Père pour ses brebis. Dans l'Épître aux Hébreux, hein, « Me voici, mon Dieu, pour faire ta volonté. Hein? Je viens faire ta volonté, offrir ma vie, totalement ma vie. » Et dans ce sens-là, la croix, le moment de la croix, est un moment d'action de grâce dans le sens où le Fils répond à l'amour du Père en faisant sa volonté et en donnant sa vie au Père pour nous. Et c'est le don total de sa vie. Ça introduit vraiment une révolution dans l'idée d'offrande ou un approfondissement inouï, parce que ça vient nous interpeller dans le sens de faire de toute notre vie une réponse d'amour à l'amour de Dieu. C'est ce que le Fils fait. Il fait de toute sa vie une réponse d'amour à l'amour du Père. Donc, avant Jésus-Christ, dans le monde, il y a des formes de remerciement, des formes d'action de grâce. Mais avec Jésus-Christ, c'est l'action de grâce suprême parce que c'est le don total de sa vie sur la croix au Père pour nous. Jésus qui meurt en priant et qui meurt en pardonnant, qui meurt en aimant son Père et qui meurt en nous aimant, en faisant le don total de sa vie. Donc c'est l'offrande suprême, c'est l'offrande totale, c'est l'action de grâce totale dans son mode d'incarnation, dans un monde blessé par le péché. Dans un monde qui serait autre que le péché, ça se manifesterait autrement. Dans un monde marqué par le péché, donner sa vie pour le Fils, en action de grâce au Père pour nous, c'est donner sa vie jusqu'à mourir sur la croix, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, le moment central, pour ainsi dire, de toute l'histoire de l'humanité, c'est quand Jésus-Christ meurt sur la croix en donnant sa vie au Père pour nous. C'est le moment précis dans l'histoire de l'humanité où un être humain, mais aussi divin, mais assumant notre humanité, donc aussi pour nous, remet au Père l'amour qu'il en reçoit. Nous, comme êtres humains, sans l'aide de Dieu, sans secours de Jésus-Christ, sans le don de l'Esprit-Saint, on n'arrive pas à remettre à Dieu tout l'amour qu'on en reçoit. Le Fils, en étant Dieu avec nous et Dieu pour nous, a le pouvoir, comme personne divine, de remettre au Père tout l'amour que l'humanité reçoit. Et sur la croix, il remet tout l'amour. Il rend grâce au Père en se donnant totalement. Donc, une offrande totale de soi au Père. Il y a deux mots classiques qui sont comme reliés à cette offrande. Il y a le mot « sacrifice » et le mot « sacerdoce ». Le mot « sacrifice », c'est de faire sacré. Faire sacré, c'est quoi? Ça veut dire « offrir ». C'est ce qui est offert à Dieu. Le sacrifice, c'est ce qui est offert à Dieu. Quand je dis offrande, ça pourrait être n'importe qui. Quand je dis sacrifice, ça veut dire offert à Dieu. C'est offert à Dieu, c'est une offrande faite à Dieu, c'est ça le sacrifice. Le sacerdoce, ça veut dire conduire au sacré, c'est rendre sacré. Le sacerdoce, c'est celui qui offre à Dieu. Avant Jésus-Christ, il y a une distinction entre le sacerdoce et le sacrifice, parce que le sacerdoce, c'est celui qui offre à Dieu, puis offrir à Dieu, c'est offrir une partie de sa récolte ou une partie de son bétail. Avec Jésus-Christ, le sacerdoce et le sacrifice, c'est la même personne. Jésus-Christ est sacerdoce, le prêtre, qui offre, et qu'est-ce qu'il offre? Lui-même. C'est lui-même qui l'offre. Ce n'est pas une autre réalité que lui-même. Il s'offre. Donc, dans cette offrande, celui qui offre, et c'est le sacerdoce, c'est le prêtre, celui qui est offert, c'est aussi le prêtre qui s'offre. Et quelque part, ça nous ouvre un espace pour nous pour rentrer dans un mouvement d'offrande à Dieu. Parce que l'appel, c'est de faire de notre propre vie une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Donc, de faire de notre propre vie une offrande à Dieu, entre guillemets, un sacrifice. C'est un mot qui peut, dont le sens peut parfois être appauvri, mais on peut ou l'enlever ou le renouveler en voyant que c'est la réponse d'amour à l'amour de Dieu. Et quelque part, en étant appelé au sacrifice, donc à faire de notre vie une offrande à l'amour de Dieu, on est appelé au sacerdoce parce que justement, c'est nous qui faisons de notre vie une offrande à l'amour de Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est vraiment le centre de l'histoire, parce que c'est le moment par excellence dans l'histoire où, sur la terre, quelqu'un va répondre à l'amour du Père, à la hauteur de l'amour du Père, dans le Fils. Jésus-Christ est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, Jésus-Christ, son offrande, ça serait un événement qui est arrivé il y a 2000 ans. Et on pourrait y penser, on pourrait se remémorer, on pourrait l'étudier, on pourrait s'en laisser inspirer, mais on ne serait pas devant la croix. On serait devant le souvenir d'un événement qu'on rappelle. Par la puissance de sa résurrection, c'est que la croix est rendue présente à tout être humain de tout lieu et de tout temps. Aujourd'hui, je peux me mettre devant la croix. Parce que Jésus-Christ étant ressuscité, la résurrection ne vient pas faire disparaître la croix. La résurrection vient faire porter à la croix des fruits de salut et d'amour et de miséricorde pour tout être humain de tout lieu et de tout temps, donc aujourd'hui. Donc Jésus-Christ est crucifié et ressuscité. Dans sa croix, en sa croix est présent l'amour de Jésus-Christ pour son Père et pour nous. Dans sa résurrection est présente la puissance de Jésus-Christ de nous communiquer cet amour, de nous communiquer cette miséricorde, de venir habiter notre cœur. Donc, c'est vraiment le moment central de l'histoire de l'humanité, c'est le mystère de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ça aurait pu rester comme ça. Mais Jésus ne voulait pas, on peut imaginer en tout cas, parce que à la limite, ça aurait pu rester comme ça, puis à l'ascension, il aurait pu dire, bien maintenant, je m'en vais, puis on va se revoir à la fin du monde. Mais ça aurait été un peu comme sortir de la dynamique de l'incarnation. Jésus n'est pas venu dans le monde pour disparaître, à un moment donné, pour revenir plus tard. Il est venu dans le monde pour y être pour toujours. Et dans ce sens-là, l'Eucharistie, c'est comme une continuation à la fois de l'incarnation et du mystère pascal. L'Eucharistie, c'est Jésus-Christ avec nous, qui donne sa vie sur la croix et qui est ressuscité. Les paroles que Jésus lui-même a dites en instituant l'Eucharistie sont très fortes. Et un être humain, une personne humaine dirait ça, ça ne fonctionnerait pas, là. Une personne divine peut dire ça, mais pas une personne humaine. « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. » C'est Jésus qui a dit ça. Puis on pourrait dire, OK, il a dit ça cette fois-là, après c'est fini. Il a dit ça pour que les apôtres communient, reçoivent le corps du Christ, le sang du Christ sacramentellement, avant la mort du Christ sur la croix, pour les encourager, les fortifier, les soutenir. Non, il a complété, « Faites cela en mémoire de moi. » C'est comme un commandement qu'il a donné à ses apôtres. Ce que je suis en train de faire, là, de dire « Ceci est mon corps livré pour vous en bénissant le pain », de dire « Ceci est mon sang versé pour vous en bénissant le vin », ben je vous commande de le faire jusqu'à la fin du monde. Faites ceci en mémoire de moi. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Dès les débuts, ils ont rompu le pain. Ils ont répondu à l'appel de Jésus-Christ et en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, au nom du Christ. » Et dans ce sens-là, le mystère de Jésus-Christ crucifié et ressuscité par l'Eucharistie nous devient présent. Nous devient présent. Et dans ce sens-là, ce qui nous est rendu présent, c'est... Encore une fois, il y a bien des facettes à l'Eucharistie, mais disons, c'est une des facettes. Ce qui nous rendu présent, c'est l'action de grâce du Christ. Et quand on se nourrit au Christ dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit de lui la force de faire de notre vie une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Parce que dans l'Eucharistie, on communie à l'amour du Fils qui a répondu à l'amour du Père et qui nous a aimés. Donc, en recevant le Christ, on communie à son action de grâce pour que notre action de grâce soit participation à son action de grâce. Pour que l'offrande qu'il fait de sa vie à son Père, pour que notre offrande soit une participation à son offrande. Ce n'est pas mon offrande à Dieu, c'est ma participation à l'offrande du Fils qui s'offre au Père. Ce n'est pas mon action de grâce envers le Père, c'est ma participation à l'action de grâce du Fils qui rend grâce au Père. Ce n'est pas ma miséricorde pour les autres, c'est ma participation à la miséricorde de Jésus-Christ qui nous pardonne tous sur la croix. Donc, avec l'Eucharistie, on a cette immense richesse d'être toujours au centre de l'histoire. Quand on est à l'Eucharistie, quand on est devant le Saint-Sacrement, dans l'adoration, quand on est à l'Eucharistie pour communier, on est au centre de l'histoire. On est au centre de l'histoire parce qu'on est au centre de la réponse d'amour à l'amour de Dieu, de la réponse d'humanité, de l'humanité à l'amour du Père, réponse que l'humanité ne peut pas faire par elle-même, mais Jésus-Christ assume notre humanité et il vient rendre grâce au Père et il vient nous entraîner dans son action de grâce pour participer à son action de grâce. Alors l'Eucharistie, c'est vraiment un événement d'amour et ça devient une source dans notre vie parce que qui ne veut pas qu'il y ait plus d'amour dans sa vie? Mais on ne fait pas toujours le lien entre l'amour et l'Eucharistie, mais si vous voulez nourrir votre amour Si vous voulez aimer davantage votre époux, votre épouse, vos parents, vos enfants, votre frère, votre sœur, d'avoir davantage un esprit de service dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation, ou à la retraite, ou dans les loisirs, si vous voulez aimer davantage les autres, bien, venez à l'Eucharistie. Quand vous avez soif, qu'est-ce que vous faites? Bien, buvez de l'eau. Vous avez faim, vous mangez. Vous avez soif d'aimer? Vous avez faim d'aimer? Venez à l'Eucharistie. Parce que vous allez participer à l'amour du Christ. Dans nos vies, l'amour, c'est un projet. J'aimerais ça aimer plus. Oui, je vais t'aimer. Ah, je n'ai pas réussi. La semaine prochaine, je recommence. Demain, tu vas voir. En Jésus-Christ, l'amour, ce n'est pas un projet. En Jésus-Christ, l'amour, c'est une réalité éternelle. Il rend grâce éternellement au Père. Quand il vient sur la terre, il vient faire sur la terre ce qu'il fait dans le ciel. Il rend grâce au Père. Et il passe sa vie sur la terre, sa vie cachée à Nazareth, sa vie publique, jusque sur la croix. Il passe sa vie en rendant grâce au Père. Sa vie, c'est une action de grâce envers le Père. C'est une réalité éternelle, infinie, toute puissante. Alors, quand on vient à l'Eucharistie, on vient s'exposer au soleil de l'amour, pour ainsi dire, et par la communion, on vient recevoir de Jésus-Christ la nourriture pour aimer en vérité, si vraiment c'est ce qu'on veut faire. Si c'est ce qu'on veut faire, rencontrons Jésus-Christ, accueillons-le en notre vie, et faisons de notre amour une participation à son amour, et nous allons aimer. Nous allons aimer. Parce qu'on est faim? Non. Parce que Jésus-Christ est là. Des fois, j'entends dire, il y a des gens qui vont à la messe, puis quand ils sortent de la messe, ils disent du mal du prochain, ou ils font le mal, je ne sais trop, puis il y a des gens qui ne vont pas à la messe et qui font du bien. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Ce que je dirais, c'est que celui qui ne va pas à la messe et qui fait du bien, s'il y allait, il en ferait plus. Et celui qui va à la messe et qui fait du mal, s'il n'y allait pas, il en ferait plus. On ne peut pas s'exposer à Jésus-Christ sans être transformé par Jésus-Christ. C'est déjà vrai sur le plan des relations personnelles, quand on a un ami, quand il y a quelqu'un qu'on aime, quand on a des connaissances, même des fois qu'on va voir un spécialiste qu'on rencontre seulement pour un service précis. Quelque part, ça vient nous transformer, quelque part, ça vient nous toucher. Quelqu'un a peut-être vu un tel médecin une fois, 10 minutes, mais le contact a vraiment été bon, ça a vraiment été, il s'est vraiment senti qu'il était quelqu'un pour le médecin, puis ça l'a habité toute sa vie. C'était une belle expérience. On ne peut pas rencontrer Jésus-Christ qui est le Fils éternel, qui est le Sauveur, qui a donné sa vie pour nous sur la croix, qui est ressuscité. On ne peut pas le rencontrer sans que ça fasse une différence dans notre vie. C'est juste qu'il ne fera pas cette différence sans notre consentement. Vous êtes familier peut-être avec des représentations d'un épisode dans l'Apocalypse où on dit Jésus, c'est Jésus qui dit « Je viens à la porte ». À la porte du cœur, et je frappe, puis celui qui m'ouvre, ben je vais entrer, puis ça va être lui près de moi, près de lui près de moi. Souvent, quand il y a des représentations imagées de ce passage de la Bible, on voit une image, on voit une maison qui est comme représente le cœur, on voit une porte, puis on voit Jésus qui arrive avec une lampe en pleine nuit, là, qui vient frapper à la porte. Et vous remarquerez, vous l'avez peut-être déjà remarqué, sur la porte, il n'y a aucune poignée. C'est une porte qui ne peut être ouverte que de l'intérieur par la personne qui est dans la maison. On ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Et souvent, c'est comme ça qu'on représente cet épisode de l'Apocalypse, ce passage. Alors, quelque part, il y a quelque chose qui dépend de nous. Il y a quelque chose qui dépend de nous. Il y a quelque chose qui dépend de notre collaboration, il y a quelque chose qui dépend de notre prière, il y a quelque chose qui dépend de notre recueillement. Il y a quelque chose qui dépend de notre consentement. Je dirais consentir à l'œuvre de Dieu en nous. Consentir à l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Consentir à être transformé par Jésus-Christ. Si ça vous fait peur, c'est une excellente réaction. Si ça vous fait pas peur, ben j'espère que ça vous fait un peu peur. Parce que accueillir l'amour de Dieu dans notre vie, ça va vouloir dire à un moment donné que Dieu va nous dire qu'aimer, c'est pardonner d'une façon dont on n'a pas le goût de faire. Ça va vouloir dire à un moment donné qu'aimer, c'est partager d'une façon qui ne nous intéresse pas trop. Ça va vouloir dire à un moment donné qu'être patient, ben, c'est accompagner quelqu'un, c'est dans la patience, sans juger, d'une façon qu'on trouverait peut-être excessive parce qu'on a on voudrait régler ça vite. Quelque part, c'est normal d'être un peu craintif d'accueillir Jésus-Christ dans notre vie parce qu'il vient non seulement nous aimer, c'était juste ça, ça serait pas pire. C'était « j'accueille Jésus-Christ qui m'aime ». Ça, c'est intéressant, c'est consolant, c'est pacifiant. Mais c'est plus que ça. C'est aussi ça, parce que c'est même premier, il vient nous aimer. Mais c'est aussi accueillir Jésus-Christ qui nous aime, mais qui veut nous rendre capables d'aimer, qui veut nous apprendre à aimer, qui a le pouvoir de nous rendre capables d'aimer et de nous apprendre à aimer. Alors, dans ce sens-là, c'est compréhensible que ce soit un peu exigeant, que ce soit un peu, peut-être terrifiant par moments. Et si ça l'est, il ne faut pas être inquiet parce que, encore une fois, on peut revenir à Jésus-Christ. Ça m'a toujours inspiré de voir Jésus à Gethsémani. De fait, depuis l'âge de 8 ans, j'ai chez moi une image de Jésus à Gethsémani qui ne m'a jamais quitté. Une vieille image de mon enfance, là, que j'avais reçue de mon oncle qui est prêtre. Père Saint-Sacrement, d'ailleurs, il a fait du ministère ici. Le père Philippe Lépine. Alors, j'avais 8 ans, donc il m'a remis une image. Jésus à Gethsémani, ça m'a toujours accompagné. Et je n'ai pas toujours fait une grande réflexion théologique là-dessus. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai regardé Jésus qui prie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est angoissé à Gethsémani? Bien sûr. Est-ce qu'il a peur? Oui. Il a peur de quoi? Il a peur de ce que le Père va lui demander, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais quelle est sa dernière parole? Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, c'est le modèle de toute prière. Vous avez peur? Seigneur, j'ai peur. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, tu me demandes de pardonner? Ça ne me tente pas. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Seigneur, tu me demandes d'être patient? Elle est vraiment fatigante. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et remarquez bien qu'à un moment donné, je lisais dans l'Épître aux Hébreux, il y a un passage que j'ai trouvé extraordinaire qui m'a beaucoup frappé et interpellé. Parce que ça dit, bon, le Fils qui vient dans le monde, ayant présenté à son Père, à Dieu, dans la clameur et dans l'angoisse, ses souffrances et ses pleurs, a été exaucé. Comment ça a été exaucé? Il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, puis il a été crucifié. Donc, spontanément, je dirais, il n'a pas été exaucé. Mais si on va un peu plus profond, quel est le désir le plus profond de Jésus? C'est de faire la volonté du Père, c'est de faire de sa vie une offrande du Père. Donc, il est comme dans l'angoisse devant la croix, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il a reçu du Père la force de faire sa volonté. Donc, il a été exaucé. Il a été exaucé. Et il y a comme une humilité incroyable de Jésus. Incroyable. Parce que dans le fond, comme fils divin, comme personne divine, il n'avait pas besoin du Père pour dire oui à aller sur la croix. Mais dans son humilité, il s'est présenté devant son Père dans sa fragilité. Il a dit, ça ne me tente pas. Peut-être ça pourrait être dans 10 ans. Mais il me semble plus tard, ça serait intéressant. Ça fait 3 ans seulement que j'ai des disciples. Ils ne comprennent rien encore. Je leur dis quelque chose, ils comprennent le contraire de ce que je leur dis. Il faut que je leur parle en parabole. J'ai beau les expliquer, ça ne facilite pas les choses. Et quand c'est encore pire. C'est peut-être le continuer un peu plus. Mais non, ça a l'air que c'est le moment. Mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il a été exaucé. Et c'est aussi ça notre prière. Seigneur, j'ai peur, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Et faire sa volonté du Père, c'est faire la volonté de Dieu, c'est une grâce. C'est un don qui nous est donné. C'est pas que cette coupe s'éloigne de moi, puis que ta volonté soit faite et non la mienne avec mes forces. C'est que ta volonté soit faite et non la mienne par ta grâce. Et dans l'Eucharistie, cette grâce nous est donnée. C'est pas par nos forces qu'on fait la volonté du Père, qu'on apprend l'amour gratuit, libre, total. C'est par la grâce du Christ. Et ce qui est extraordinaire dans l'Eucharistie, c'est que si nous voulons aimer d'un tel amour, bien, ça nous est possible, parce que c'est impossible, mais c'est possible, parce que Jésus-Christ le vit éternellement, il l'a vécu sur la croix, c'est actualisé pour nous, et quand on communie au corps du Christ, on reçoit l'amour avec lequel il aime, donc on est rendu capable de participer à son amour pour aimer avec l'amour avec lequel il aime, et pour aussi aimer Dieu et aimer les autres avec l'amour de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, l'Eucharistie. Gaspillez pas de dimanche. Vu sous l'angle de faire de notre vocation à l'amour, un dimanche sans Eucharistie, c'est un dimanche gaspillé. C'est comme une journée sans manger. Une journée sans manger, est-ce qu'on est fort le soir? On n'est pas fort. Puis le lendemain non plus. Une journée sans manger, on n'est pas fort. Un dimanche sans Eucharistie, notre amour faiblit. Il faiblit. Alors, je vous souhaite vraiment de garder les yeux fixés sur l'Eucharistie, sur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, sur votre vocation à l'amour. Ne doutez jamais de votre vocation à l'amour. Et parfois, l'échec dans notre vie nous fait douter de notre vocation à l'amour. Mais en remettant votre vie entre les mains de Jésus-Christ, en disant « J'ai peur, mais que ta volonté soit faite et non la mienne », en recevant le corps du Christ, vous allez recevoir sa paix. C'est la première parole qu'il dit à ses apôtres après la résurrection, que la paix soit avec vous. Vous allez recevoir sa paix, vous allez recevoir sa force pour aimer. Merci.